Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour une interview avec Laura de BMC Consulting que je suis hyper contente de recevoir. Laura, bienvenue à toi, comment tu vas ?
Bah merci à toi, Déborah, je vais très bien, j'espère que toi aussi.
Ouais, ça va, ça marche. Comment tu te sens ?
Bah très bien, un petit peu stressée. Dès que ça rentre en enregistrement, on stresse un petit peu. Mais j'ai hâte de partager plein de choses avec vous toutes.
Ok, super. Alors, j'ai dit Laura de BMC Consulting. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es et ce que représentent ces fameuses trois lettres ?
Oui, alors totalement. Bah, je suis Laura, j'ai du coup 28 ans. Je suis maman de deux petits-enfants, enfin deux enfants en bas âge plutôt. Je suis expatriée en Turquie depuis presque 2 ans et j'ai créé l'agence BMC Consulting. Donc BMC, c'est Business and Marketing Consulting, dans le but d'accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs et même des dirigeants d'entreprises déjà bien établis dans le développement de tout leur marketing 360 sur le web et aussi avec un volet gestion de projet parce que ça fait partie c'est une grande partie dans chaque projet en fait qui naît. Et voilà, donc je suis associée à mon mari qui lui est sur la partie business et qui va être plus sur des sujets très rentabilité, tout ce que j'aime pas. Moi je suis sur vraiment la partie marketing 360 parce que c'est ce que j'aime et c'est la formation que j'ai également et j'ai travaillé aussi dans le domaine pendant plusieurs années en tant que salarié.
Bah c'est cool, ça, une entreprise familiale, alors on va dire
c'est
ça comme ça.
C'est ça.
Super. Alors, quand on te suit sur Instagram, puisque c'est la plateforme que tu exploites principalement au niveau de tes réseaux sociaux, si je ne me trompe pas.
Totalement.
On voit que tu as fait le choix de ne pas te montrer. Mm-hmm. C'est un choix qui inspire de plus en plus de femmes, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a demandé une réflexion ou ça a été une évidence dès le début pour toi ?
Alors, ça a été une évidence. Je ne me suis jamais... je me suis jamais imaginée être sur un réseau et me montrer moi. Mm-hmm. Je trouve que on peut faire sans. Il y a de très belles choses qui se font sans. Et en plus, je suis pas trop sur le personal branding ou tout autour de la personne. C'est pas le but. En plus, c'est un compte assez qui a du partage un peu personnel, etc. Sur la vie de maman et notamment en Turquie actuellement et aussi du coup d'entrepreneur. Donc bien sûr que sur ça je partage, mais même je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à me voir. et c'est franchement, je n'ai jamais eu de réflexion autour. Donc, ça a toujours été une évidence. Ouais, ça n'a jamais été une... Voilà, ça m'a jamais fait mal à l'esprit ou ça n'a jamais été une concession. Non, ça a toujours été évident, en fait, ouais.
Et tu penses que c'est quelque chose qui pourrait évoluer ? Est-ce que tu te vois, à un moment donné, changer ça ou pas ?
Franchement, non. Je ne verrais pas, en fait. Déjà, juste... on parle principalement en story, hein, après, tout ce qui est réel, etc. aussi. Mais déjà, faire des stories, c'est très spontané, etc. Et c'est quelque chose on prend le rythme, etc., au fur et à mesure. Mais ça demande quand même du temps et tout. Mais alors, s'il fallait en plus me montrer et tout, ça demanderait une organisation de fou. Parce que, voilà... Et puis même, je trouve que ça n'aurait aucun intérêt, j'apporterais pas plus de valeur en me montrant. Ça c'est pas voué à évoluer du tout. Franchement, moi aussi, je suis fermée à l'idée de me montrer, pas parce que je ne m'accepte pas ou pas, mais je vois pas de valeur ajoutée à me montrer. On est sur une entreprise, hein, quand même, c'est un compte entreprise. Mm-hmm. Alors oui, je l'incarne, mais je verrais pas, non, ça n'est... Enfin, je pense pas, je suis sûre de ne jamais me montrer sur les réseaux sociaux.
Ok, c'est intéressant que tu dises, t'as dit ça comme une petite virgule dans ta phrase, mais je trouve que c'est hyper important. T'as dit, c'est pas que je m'accepte pas. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de personnes qui font cet amalgame, en fait. La personne ne se montre pas, donc c'est qu'elle est mal à l'aise, pas bien dans sa peau et tout.
Oui. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Mais non, c'est pas, franchement, il y a des convictions derrière aussi. Et puis, je trouve que franchement, même en termes de valeur ajoutée, parce que quand on fait quelque chose, moi, je réfléchis stratégie, hein, bien évidemment. Alors, bien évidemment, tout est spontané dans le partage et ça me fait plaisir. Ouais. Et c'est ma personnalité, hein, bien évidemment. Mais je verrais pas, en fait, je me dis, ça changerait quoi. Ce serait juste attiser une curiosité. Enfin, tu vois,
c'est ça.
Ça n'apporterait. Après, il y a des domaines, par exemple, si je peux me permettre, moi, je suis sur la création d'autres business, où c'est vrai que je me dis, si je me montrais, ce serait plus facile. Ouais. Sur d'autres choses, type e-commerce, etc. Où, voilà, y a... mais, et donc, je réfléchis à des alternatives. Mais par contre, pour le compte de BMC, et je ne m'en montrerai pas, hein, c'est, mais c'est juste que là, oui, il y a une réflexion à me dire, c'est vrai que ce serait plus simple. Donc maintenant, comment je trouve une alternative? Mais pour le compte BMC, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Même, je vois pas mal de comptes qui ne se montraient pas à la base et qui commencent à le faire. Bah même pour eux, en fait, ça me fait même pas plaisir de voir la tête des gens, quoi.
Oui, ça change rien. Tu te dis, bah, c'est enfin. Cool,
ça change. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est un peu, on est aussi dans une société, on est très. Bah, ouais, il y a quand même beaucoup de voyeurisme avec les réseaux. Et malheureusement, c'est un peu des fois, chacune de nous, hein, des fois, on a ce truc-là, un peu de curiosité, de suivre des trucs un peu par curiosité. Mais je trouve que ça participera à ça et ce ne sera pas hyper top. Donc, je ne suis pas contre celles qui se montrent. Hein, elles font ce qu'elles veulent. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est en accord avec ce qu'il fait, quoi.
C'est ça. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et voilà. Tu parlais d'alternatives éventuellement pour un autre compte ou quoi. Mais justement, pour BMC Consulting, est-ce que tu as spontanément cherché des alternatives au fait de ne pas te montrer? Ou tu vois, ça ne s'est jamais présenté, quoi. Tu as toujours réussi à développer ton compte sans?
Non, franchement, j'ai jamais réfléchi. Là, si je compare avec d'autres où je me dis, oui, là, qu'est-ce que je fais pour? Parce qu'il va falloir montrer quelque chose, je peux pas. Mais pour BMC, non. Très rapidement, enfin, voilà, quand tu poses un petit peu ta stratégie sur papier, après les choses, surtout, je parle vraiment en story où ça se fait plutôt spontanément, mais quand il y a quand même y a une trame stratégique, il a jamais été question de montrer, quoi. Le seul truc qui serait peut-être sympa, c'est de faire des face cam ou alors là où la question peut-être se pose, mais je pense que ça va venir après, c'est plus sur la voix, parce que des fois il y a des sujets, ça me saoule j'ai plein de choses à partager, il faut que j'écrive, mais je me dis je prendrai mon téléphone, je ferai un audio, ça ira plus vite, d'où l'envie de plus développer le compte Telegram, mais ça c'est un autre sujet, mais voilà, non, franchement ça a jamais été une question.
Bah au moins c'est clair. Et justement, t'as devancé ma question qui arrivait et qui est celle de l'exploitation de la voix. Donc là, moi, j'ai le plaisir de te recevoir sur le podcast. Donc forcément, oui. Tu parles et c'est d'ailleurs très agréable. Merci encore. Par rapport à ça, tu t'es posé la question, est-ce que j'ai envie qu'on entende ma voix? Et je précise que toutes mes questions, elles portent sur le pan, tu vois, des réseaux sociaux, pas quand il s'agit d'accompagnement, etc., où c'est évident, quoi. Est-ce que tu t'es aussi posé la question pour ta voix?
Alors, pour la voix, j'ai pas de frein, c'est plus une question de temps. Je l'ai fait une fois, je sais pas qui va s'en souvenir. J'ai fait une fois une story. Je me rappelle, je marchais en poussette avec ma fille au temps où j'avais ma fille dans les pattes et j'avais vraiment c'est pas un coup d'œil, mais j'avais vraiment un truc à exprimer. Ça m'avait vraiment pris un peu au trip. Et du coup, j'avais pris parole, mais c'est pas en fait. Maintenant, ça demande aussi de l'organisation. Faut que je sous-titre et tout et tout. Et ouais. Donc c'est pas un truc où je suis fermée, peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que là en termes, parce que j'ai des choses à partager où je pense que ce serait beaucoup plus facile avec la voix, c'est vrai que même sur, je trouve que ce format là, même voilà les podcasts etc, c'est top, donc je suis pas fermée du tout à exploiter entre guillemets ma voix, et parce que je suis quelqu'un qui communique bien, enfin j'aime bien communiquer, j'aime bien aussi écrire, mais c'est vrai que je communique mieux je trouve en parlant, quoi, en exprimant les choses de vive voix, et du coup potentiellement ça pourrait venir, mais encore une fois c'est pas une grosse réflexion qui en va de l'avancée, du développement de mon entreprise via les réseaux, quoi. C'est juste un plus que j'aimerais bien, à un moment donné, si j'arrive à trouver le temps, peut-être faire ce petit format-là, mais voilà, c'est pas encore... Enfin, voilà, il n'est pas question de... c'est pas un gros sujet stratégique pour moi, mais je suis pas fermée à l'idée du tout. Ça pourrait venir.
Et tu parlais de Telegram ? Moi, je fais ma petite curieuse. De quoi s'agit-il ? Dis-moi.
Alors, j'avais créé, l'année dernière, déjà, ça fait un an, à l'occasion du Ramadan, j'avais créé un collectif des entrepreneuses parce que je me suis dit, OK, il y a Ramadan qui arrive, mais il y a beaucoup de gens qui commencent leur business ou qui sont en plein dedans. Et en fait, la période du Ramadan, des fois, elle est bien, elle est top pour on est là aussi pour se recentrer un petit peu, mais il y en a pas mal qui lâchent leur projet après. Et je trouvais ça super dommage, donc je voulais trouver un moyen, en fait, de faire un petit collectif de filles d'entrepreneuses ou en devenir, qui veulent partager un petit peu le quotidien, etc. Et en fait, pendant ce mois-là, pendant le mois du Ramadan, on faisait, l'idée, c'est d'avoir un live par semaine. Bon, on ne l'a pas trop tenu, parce qu'on était un peu prise, mais on se parlait hyper régulièrement. Et moi, c'est au moment où j'ai lancé ma newsletter. Et donc, dans cette newsletter-là, je donnais des challenges. Donc, je pense que je vais le reprendre sur le mois du Ramadan qui arrive. Je lançais, des challenges business. Donc, pour pas lâcher, en fait, pas des trucs non plus trop prenants, hein, et des petits challenges aussi religieux, de se dire, voilà, bah, tu as fait une lecture, un petit résumé de ce que ça t'a impacté, comme ça, ça permettait... Et en fait, l'idée, c'était de partager ensuite dans le Telegram, parce que dans la newsletter, on ne peut pas le faire de manière interactive, voilà, donc c'est un format qui est... Donc, je communiquais les idées, les challenges par la newsletter, et après, on en discutait dans le Telegram. Et on a maintenu ça sur le reste de l'année. Bon, là, c'est un petit peu endormi. Il faut que je relance un petit peu le tout. Et du coup, sur ça, je fais effectivement des audios. Je suis la reine des audios hyper longs. Ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent le savent. Je suis une grande bavarde. Donc, du coup, je fais voilà, des petits audios sur des réflexions ou des choses que je vois avec des clientes et qui pourraient potentiellement servir des filles qui seraient dans le même cas. Voilà, des petites conclusions, j'aime pas des tips, mais voilà, des ouais. petites réflexions qui peuvent servir à toutes.
Mmh. Tu vas relancer la machine alors, si j'ai bien compris.
C'est ça, bah oui, avec le ramadan qui arrive, je vais relancer un petit peu le tout, je pense.
En tout cas, c'est un bon concept, c'est une bonne idée. Je pense que ça doit intéresser pas mal de personnes, parce que c'est vrai que quand il y a des grosses périodes comme ça, où on se recentre sur soi, etc., ben on a tendance à délaisser, en tout cas à s'organiser pour ne pas travailler pendant ce temps-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais que donc derrière, pour reprendre, c'est un peu compliqué. C'est comme les retours de vacances aussi.
C'est ça. Mais tu vois ça, enfin après c'est un autre sujet encore, mais bon, j'ai pas trop... Mais c'est vrai que moi, à la limite, quelqu'un qui a l'habitude, qui va savoir s'arrêter et reprendre de plus belle après, comme une rentrée lambda, ça va, mais j'avais fait le constat en fait que tu en as énormément qui étaient en pleine réflexion à ce moment-là et qui lâchaient complètement parce qu'après elles sont prises dans le train-train de la vie et qui lâchent leur idée en fait. Et du coup, c'était tout le jeu, c'était en disant si vous voulez pas bosser, vous bossez pas, mais au moins vous, même si vous avez encore rien lancé, vous profitez de cette période-là où le cerveau, je trouve, il décuple ses facultés.
Absolument.
pour réfléchir à des petites choses qui pourraient servir votre future entreprise ou votre entreprise actuelle, en fait.
Donc justement, là, tu parles de business, etc. Et toi, clairement, c'est ton positionnement, donc stratégie digitale, business, marketing. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit au juste, donc dans ta perception à toi, et ce qui a motivé tes choix, comment t'en es arrivé là, finalement?
Ok. Alors, je commence d'abord par la deuxième partie de ta question, si ça te convient. Alors, comment j'en suis arrivée là? Moi, j'ai fait, du coup, une licence en administration et gestion d'entreprise. Et je me suis très vite spécialisée, du coup, en e-commerce et e-marketing, marketing digital. Hein, et j'ai eu un master dedans. Ensuite, j'ai travaillé, stage, alternance et post-CDI en email marketing. J'étais spécialisée en email marketing et ensuite chef de projet acquisition. Donc j'ai toujours été dans le marketing digital, quoi. J'ai travaillé exclusivement dans ce secteur-là. Mm-hmm. Et du coup, une évidence pour moi, j'ai beaucoup aimé le domaine. Moi, je suis quelqu'un à la fois créatif, stratégique, et j'aime bien aussi mettre les choses en place. Donc j'ai aussi beaucoup développé le côté technique, parce que le marketing s'accompagne d'une grande partie technique. Alors dans les grandes entreprises, on a des développeurs, je les appelle des techos, mais voilà, les développeurs, mais dans une petite structure, on n'en a pas forcément. Donc il faut pouvoir mettre des choses en place, hein. Et du coup, bon, donc là, c'est un petit peu à l'origine, quoi, pourquoi je suis dans le domaine et la formation. Et ensuite, quand je suis, donc là, ça rentre un peu plus sur la partie comment je suis arrivée là sur BMC, hein, on est dans cette question-là.
C'est ça.
C'est un petit peu, j'en ai pas mal parlé, mais quand je suis tombée enceinte de mon bébé premier, de mon fils, en 2019, on m'a arrêtée, alors que moi je suis une hyperactive, une sage-femme m'a arrêtée à un mois de... En fait, moi je voulais continuer jusqu'à la fin pour pouvoir même... Bon bref, je voulais continuer au maximum de ce que je pouvais, mon taf, parce que voilà, je pouvais faire des travaux, j'avais pas de pression, enfin bon, très tranquille, quoi. J'avais une envie entrepreneuriale très prenante, hein. J'avais envie de développer une marque, mais après j'ai un peu mis de côté puisque c'était pas le moment. Et voilà, j'avais ce truc-là de faut que j'entreprenne, donc j'avais toujours une idée, etc. Mais j'étais pas encore dans l'urgence, enfin pas de souci, j'étais en mode on verra. Et en fait, quand elle m'a arrêtée, je l'ai super mal vécu. Et moi, j'aidais déjà à la base des filles qui avaient lancé, ou même des amis de mon mari, des connaissances, qui avaient déjà des business. Et on les aidait, lui, il les aidait sur la partie business et moi sur la partie, du coup, marketing. Je faisais des audits et tout, mais de manière, gracieuse. Mm-hmm. Et en fait, quand ils m'ont arrêté, je me suis dit, attends, c'est le moment là, je vais être en congé. En plus, je prenais un congé assez longue durée et tout. J'ai dit, c'est le moment de lancer un truc. Viens, on lance l'agence avec mon mari. Et j'avais une associée à l'époque. Et très rapidement, je me suis lancée. Très rapidement, on a eu énormément la première année, beaucoup de clients. Mais tu sais, c'est la première année où tu ne choisis pas forcément. Donc, ce n'est pas des trucs hyper intéressants, mais tu es hyper débordée. Donc, je n'ai pas développé tout de suite. Je suis un peu... comment on dit, le cordonnier qui est mal chaussé, quoi.
C'est ça, ouais, ouais.
Mon site n'est toujours pas là, hein. Enfin, il est là, mais pas encore bien. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Le développement de BMC, en fait, voilà, j'ai pas pu développer ce que je voulais. Hein, voilà, donc là, on est vraiment sur ces sujets-là. Mais voilà, donc du coup, comment est née l'idée? C'était du coup il y a 2-3 ans, ouais, c'est presque ça, 3 ans. Et du coup, à la naissance de mon fils, j'ai aussi accouché de BMC. Et comme, alhamdoulilah, j'ai eu un enfant très calme, le premier, hein, je parle bien du premier, j'ai pu développer, parce qu'au début, on m'a dit, oh, comment tu vas faire, t'es enceinte, tu vas avoir un bébé, tu crois vraiment que tu vas pouvoir gérer une entreprise. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Il le faut, parce que sinon, je vais pas être bien, je sais que j'ai besoin de développer des choses, de réfléchir et tout. Et du coup, franchement, bah, c'était l'année du Covid aussi, donc c'était la première année qui était franchement une très belle, un très beau souvenir. Et voilà. Donc, et après, ça s'est développé jusqu'à maintenant.
Quand tu parles de tout ça, on sent que voilà, c'était pas sympa de t'avoir arrêté à ce moment-là, que toi, tu voulais continuer. Mais finalement, comme on dit, c'est un mal pour un bien, puisque derrière, tu as pu développer le reste. Mais je te laisse continuer.
Exactement. Alors, bah, du coup, de par déjà ma formation, mes études, j'ai... Alors moi, en fait, j'ai eu une limite quand j'ai été salariée. C'est parce que du coup, j'ai été hyper formée, vraiment experte sur l'email marketing et l'acquisition. Organique et payante, hein. Mais moi j'étais très j'ai toujours eu un regard 360, j'ai fait énormément de veille, mes études étaient dedans, j'ai travaillé sur des gros trucs, enfin des gros projets 360 où c'était vraiment de développer toute la stratégie. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que pas mal de gens qui lançaient leur entreprise et tout, elles me parlaient, ouais, faut que je développe mon Instagram, donc déjà elles le faisaient mal, et en plus elles parlaient que d'Instagram, et ça je me disais, mais en fait c'est un problème parce que tu peux pas, ton entreprise elle peut pas reposer là-dessus et tout, donc c'est aussi mon combat au jour d'aujourd'hui, et je pense que tu le sais, mais voilà, donc et en fait du coup je très rapidement c'était une évidence de me dire voilà, il y a énormément de gens qui entreprennent, il y a énormément aussi de sociétés, parce qu'à la base la première année c'était pas du tout des entrepreneurs, là c'est que maintenant que je suis en train de développer des offres adaptées à des personnes qui se lanceraient et que du coup sur mon premier sur le canal de Instagram, mais avant voilà, j'ai les autres canaux, il y a pas que Instagram, hein, bien évidemment, et c'est pas du tout la même cible, dans le sens où c'est potentiellement aussi des gens qui ont lancé, que ça fonctionne, mais ils ont rien en fait en termes de structure, portefeuille client, etc. Enfin même et le digital aujourd'hui c'est un incontournable et ils le savent, donc du coup c'était tout simplement logique que de venir et de porter ces projets-là ou ces idées ou ces business qui existaient déjà sur le digital, en fait, vraiment les rendre pas dépendants que d'un levier et de développer quelque chose d'un écosystème favorable à leur développement.
C'est ça, absolument. Et justement, tu disais, de nouveau, tu as fait une remarque qui est hyper intéressante. Je sais plus quelle formulation tu as utilisée, mais pour dire que Instagram, c'était pas possible en fait de laisser reposer tout son business que sur Instagram. Est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse là-dessus? Parce que moi, ça me tient énormément à cœur, parce que je trouve ça aussi aberrant en fait qu'on puisse se dire, je suis professionnelle et je suis que sur Insta. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, rien que dans cette phrase.
C'est ça. C'est ça. Alors, en fait, moi, tu vois, alors, déjà, ça, c'est un point. Après, je sais que aussi, faut avoir une organisation et tout pour faire le reste. Hein, et les gens voient ça comme un gros. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est il y a ça. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment de penser que, oui, que voilà, t'es que, enfin, tout ton business va reposer dessus et je m'en fiche du reste, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est impossible dans le sens où Instagram. Bah, c'est un très beau levier, il est fort, c'est un fort levier en acquisition, en fidélisation, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, on ne remet pas. Mais demain, tu veux vendre ton entreprise, tu dis oui, j'ai un compte Instagram, c'est très bien. Mais rien à faire, en fait, la personne, elle ne va pas monter son prix par rapport à ça. Par contre, tu lui dis, j'ai une base de données, j'ai un site qui fonctionne, j'ai ci, ça, j'ai... Et en fait, moi, je pense à la revente parce que quand on crée un business, il faut toujours penser à est-ce que je le... Enfin, tout le monde ne va pas vendre son business, mais en business, c'est mon mari qui me l'a appris, quand tu crées une entreprise, tu penses à lorsque tu vas la vendre. Donc déjà, c'est le premier point. Mais après, même sans penser à la vente, tu ne peux pas aujourd'hui te dire que tes abonnés vont permettre que ton business soit pérenne sur le long terme. C'est impossible. Un abonné, il part, il revient. On connaît les gens parce qu'on va peut-être échanger avec eux en message privé, etc. Mais tu ne vas pas garder de traces de ces personnes-là. Et moi, tout l'intérêt pour les entreprises que j'accompagne, c'est de développer en fait une base de données à la base, de connaître les gens pour pouvoir adapter à la fois tes offres, à la fois ton message et pour pouvoir grandir avec eux, sur la durée. Parce que Instagram, on peut faire de belles choses. En fait, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire. Mais ça va être très limitant à un moment donné, si tu veux, pour moi, enfin, tu vois, les plus grands marketeurs ne sont pas sur Instagram. Alors, c'est peut-être une erreur de leur part, mais un vrai, enfin, pour moi, un vrai business, il ne peut pas reposer que sur un compte Instagram. Il te faut un site fonctionnel que tu c'est pas, tu fais ton site et tu le touches plus jamais. Hein. C'est un site qui fonctionne avec le temps. Tu travailles ton référencement, qui est hyper important, le référencement naturel. Il y a aussi des possibilités après de tout ce qui est publicité, mais ça, je sais que c'est encore un autre sujet et je ne le pousse pas tout de suite parce que voilà, il faut du budget. Mais avant ça, il faut une structure en fait qui soit, il faut des bases solides en fait. Et même avant ça, en fait, moi je vois beaucoup de gens qui se lancent sur Instagram mais qui n'ont même pas, ne serait-ce que, ils ne savent pas en fait ce dans quoi ils se lancent. Et dès que là je le vois, par exemple, j'ai un accompagnement actuellement et j'en ai plein qui disent ah ouais, en fait, il y a de la réflexion, il y a ouais, là je vois que c'est vraiment sérieux et tout. Et en fait, pourquoi moi aussi je dis attention au business d'Instagram, c'est que ça ne dure pas. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi longtemps, enfin longtemps, qui n'a pas réfléchi stratégiquement à là où elle va, ses objectifs, ce qu'elle veut dans. Enfin, après, je ne dis pas qu'il faut être que objectif. Et tout, mais en fait d'avoir une vision en fait et une ligne de conduite, ça te permet en fait après de faire plein de belles choses et de surtout te rappeler pourquoi tu le fais. Parce que ça, ok, c'est une tendance d'avoir un compte Instagram qui grossit et ok, c'est cool, ça flatte l'ego, mais un business, il marche pas à l'ego, quoi. Donc voilà.
Malheureusement.
Voilà, franchement, ouais, c'est ça. Non, et puis oui, c'est ça, c'est exactement. Et donc, j'invite voilà, toute personne à vraiment poser les bases, à avoir une identité qui soit, voilà, qui soit réfléchie, pas un truc que tu as fait en 2-2 sur Canva et parce que c'est les tendances des couleurs et tout, à avoir déjà à réfléchir à voilà, tout ton positionnement, ta cible, et la cible c'est pas juste se dire je parle au plus de monde possible. Enfin, tout ça c'est des sujets en fait qu'on entend beaucoup parler sur Instagram, mais moi je l'ai vu après dans le concret que les gens ne savent pas en fait comment on tire profit de ces éléments là. C'est pas juste les définir, c'est après pouvoir travailler avec eux sur tu vois, définir sa cible, qu'est-ce que t'en fais après. C'est bien beau d'avoir une cible sur papier, mais voilà, et du coup après aussi développer l'email marketing, alors ça c'est mon chouchou, mais qu'est-ce que l'email marketing ramène énormément d'argent à un business de manière très peu coûteuse quand c'est bien fait. Donc avoir une newsletter personnalisée aujourd'hui, je trouve que c'est un incontournable. Et voilà, développer ces canaux-là, et même il y a Pinterest, où bon, c'est aussi un réseau social, mais tu vois, il y a plein de choses en fait à faire et qui vont servir le business. Et en fait, il ne faut pas penser que argent abonné, en fait, il y a aussi du trafic, il y a plein de choses en fait dans le marketing digital. Je ne vais pas faire un cours là, je pense que ce serait bon, mais il y a plein de choses à penser parce que ça va servir l'objectif final en fait et les projets qui arrivent et tout. Donc, quand on se lance dans quelque chose, je pense qu'il faut quand même se poser des bases solides parce que sinon on lâche très vite. Et moi, je le dis souvent hein, sur Instagram, des fois, j'ai eu des gens qui, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Tu te bases sur quoi? Ouais, mais dans 3 ans, vous n'êtes plus là en fait, les amis, parce que vous vous basez sur des trucs qui, ok, là, ça fonctionne, vous faites de l'argent, mais c'est quoi la suite, quoi.
Mmh. Et c'est aussi une question, je pense, donc déjà, merci beaucoup hein, pour toute cette analyse-là, elle est hyper intéressante, mais je pense aussi qu'il y a un problème de valeur perçue aussi, tu vois.
Bien sûr.
Gens ne pensent pas à ça, et donc ils se disent, ouais, je suis sur Insta, comme tu as dit, hein, j'ai des followers, ça marche et tout, mais la valeur perçue de ton business, elle n'est pas terrible si tu dis que tu es là qu'avec Insta. Oui, tu vas montrer tes chiffres et tout, et ça, c'est hyper bien, et c'est très bien, mais comme tu as dit, et après, en fait, comment tu vas faire? Il y a ce côté professionnel et sérieux, je vais dire, qui manque.
Et puis même demain, enfin on l'a vu, les Insta, enfin moi j'ai l'impression que Insta bug encore, j'en ai pas parlé, mais moi je sais que sur une journée, je peux passer, genre j'ai 4, 5 qui reviennent, qui repartent, sur la minute. Donc Instagram bug, je suis désolée, faut se le dire, Instagram il a sa limite, et en fait Instagram, les gens, alors personne n'appartient à personne, mais sur Instagram, les gens ne vous appartiennent pas. Dans ta base email, là par contre oui, ils t'appartiennent pas non plus, mais tu les as, t'as des traces d'eux, tu peux apprendre à les connaître, tu peux comprendre pourquoi ils partent, pourquoi ils reviennent, tu peux t'adresser à eux, tu peux créer du lien. Instagram aussi, mais on faut quand même bien se mettre en tête qu'Instagram, on parle à une masse, on parle à nos abonnés, on parle pas à chaque personne individuellement. Donc il y a aussi ça, et carrément ouais, la valeur perçue, enfin après et aussi je pense qu'on en a mis trop sur moi j'essaie de un peu redescendre le sujet, la valeur perçue justement d'Instagram, c'est cool, mais c'est bon quoi, parce que c'est pas parce que ton business il a je sais pas combien d'abonnés qu'il fonctionne, et ça aussi c'est un truc pour faire attention, puisqu'on va on va donner plus de crédibilité à des gens qui n'y connaissent rien mais qui parlent bien ou j'en sais rien et qui ont plein d'abonnés, on sait pas d'où, parce que après voilà, et ils vont faire des offres à je ne sais combien, ils vont tuer le secteur en fait, parce qu'après c'est un peu des charlatans. Il y a aussi ce truc là aussi qui est un peu mon combat. Et après par contre des petits comptes où c'est vraiment des filles, des pros qui font des trucs très bien sur leur compte mais qui montent pas forcément forcément de fou, bah on va un peu moins, voilà, il y a toujours ce truc de ouais bah elle a plus d'abonnés donc j'ai plus confiance. C'est pas un gage de c'est pas un facteur. Enfin voilà, tu vois, genre je sais que là je travaille par exemple sur un dossier, on est en train de regarder les critères de la société pour voir machin, à aucun moment ils m'ont dit mets ton nombre d'abonnés sur Instagram, pas du tout. Mais mets ton nombre de fermés, mets ton nombre de, tu vois, mais pas de. Donc voilà.
Franchement, merci beaucoup. Ça, c'était hyper intéressant. Et je pense que c'était vraiment indispensable de le repréciser et d'en reparler, je vais dire.
Je suis la première à te rejoindre là-dessus.
Alors, avant de parler un petit peu plus de la Turquie et de comment tu es arrivée là-bas, ouais, comment tu as atterri là-bas, est-ce que, tant qu'on parle de business, est-ce que tu pourrais me donner ton meilleur conseil ou comme ça, deux, trois choses que tu aurais envie de dire aux femmes qui ont envie de se lancer en ligne ? Mais qui ont peur de ne pas être remarquées parce qu'elles ont fait le même choix que toi, celui de ne pas se montrer.
Alors, moi déjà, même à toutes, hein, c'est le conseil que je peux donner vraiment à tout le monde, c'est de prendre un peu une distance avec cette société où tout est rapide, on consomme énormément, il faut y aller doucement aussi, et se dire qu'il faut y aller doucement, mais sûrement. Il faut arrêter de se limiter à parce qu'on t'a dit ça. Il faut faire attention, en fait, à ce qu'on entend et avoir toujours je le répète aussi, mais tu vois, cet esprit critique sur ce qu'on entend et ce qu'on reçoit comme information sur Insta, enfin, sur tout, en fait, hein, même sur Internet. Faut penser aussi que c'est chacun, chaque personne qui s'exprime avec sa vision, etc. Il n'y a pas de vérité absolue en vérité. Donc ça, c'est un point vraiment... Je l'ai vu cette année, il y a tellement de filles qui m'ont dit « je lâche parce que j'ai vu ça, je lâche parce que ça me fait flipper ». Je me dis « mais non ». En fait, le conseil que je donnerais, c'est en fait, déjà, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Alors, il faut les faire avec sérieux. Attention, il faut les faire avec sérieux.
C'est ça.
Mais il faut faire attention à pas... en fait, le risque, des fois, il est moindre, surtout quand on se lance sur... après, c'est bien sûr, il y a une question d'investissement, etc. Mais se lancer, des fois, ça peut ne pas non plus... l'échec, ce serait de ne rien faire et d'abandonner, justement. Alors, mon conseil, il va un peu dans tous les sens. Ça, c'est moi. Hein, désolée.
T'inquiète, je pense qu'on est tout un peu comme toi, hein, cerveau en arborescence et tout. Je pense qu'on va se retrouver là-dessus.
C'est ça. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas d'échec à part le fait de ne rien faire et de rester dans ce truc-là de j'aimerais, mais je peux pas. Et j'en vois tellement. C'est pour ça que vraiment, mon conseil, il va être vraiment là-dessus, axé là-dessus. Et le fait après de se montrer ou pas, franchement, c'est pas du tout un frein, loin de là. Et le tout, c'est vraiment de créer de la valeur. Et la valeur, tu vas la créer en ayant bien conscience de ce que tu veux, quelle est toi ta valeur, ce que t'apportes en plus, parce qu'il y a un business qui ressemble au tien, comme il y a un business qui ressemble au mien et à toi aussi, Déborah. Tout, en fait, on n'a pas inventé la lune, avoir des startups hyper innovantes. Il y a très peu de trucs qui sont uniques. C'est aussi le point que je voudrais, sur lequel je veux sensibiliser, c'est que la concurrence, moi, j'aime la concurrence, mais on a toujours ce truc où on reste, voilà, on a envie de, elle nous challenge, en fait, la concurrence, mais voilà, faut avoir conscience que la concurrence, si elle est là, eh ben, c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un besoin et que, en fait, tu as ta place. Et c'est très bon dans le business, hein. C'est très important d'avoir de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, voilà, c'est le marché de l'offre et de la demande. Ça, je vais l'apprendre à personne, mais du coup, faut pas en avoir peur non plus, parce que ça aussi, je l'ai entendu, ouais, il y en a trop, donc change de concept. Non, quand vous avez une idée en tête, il faut y aller, il faut arrêter de se laisser porter comme un bateau et attendre que ça se fasse, parce que voilà, les autres le feront aussi, il y aura toujours plus de concurrence, il y aura des gens, et en fait, chacun a son élément différenciant, ça vient de sa personnalité à la base. Et par exemple, arriver sur Instagram, il y a beaucoup de concurrents, j'en ai conscience, et ne pas se montrer, c'est pas un frein, parce qu'on est plein maintenant, et il y a un moyen, en fait, de communiquer de faire du personal branding sans se montrer, en humanisant son compte, en disant ok, moi, qu'est-ce que je veux partager de ma personnalité, qu'est-ce que je veux partager comme valeur à des personnes qui vont être mon auditoire, mes abonnés, mais tout ce que tu veux, en fait, hein, sur tous les canaux fondu, qu'est-ce que moi je veux apporter, et là c'est là où il va être ton élément différenciant, et c'est là où tu vas mettre en fait ta touche, en fait, à toi, et du coup il n'y a pas de frein à ne pas se montrer ou à ne pas faire comme un tel, bien au contraire, et c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est pas possible, et non, bon, tout le monde a sa place, et le seul truc, c'est vraiment de trouver de se faire confiance et d'y aller, en fait. À un moment donné, il faut y aller, il faut mettre les pieds dedans, il faut être courageux. Parce que si on ne fait rien, bien sûr qu'on restera avec des « oh, j'aimerais bien », « oh, j'aimerais bien », on reste frustration constante. Mmh. Et ça, je pense qu'il n'y a pas pire. En fait.
Écoutez, Laura, elle a prêché la bonne parole. Franchement, c'est vrai. T'as raison, parce qu'il n'y a, rien de pire que la frustration derrière. C'est incroyable. Si j'avais, si ceci, si cela. Mais faites.
C'est
faites,
ça,
vous verrez bien après.
Exactement, exactement.
Ok, donc du coup, est-ce que BMC est né en France ou en Turquie ?
Il est né en France, BMC est né en France.
Et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'en Turquie ?
Jusqu'en Turquie, alors, il est arrivé en Turquie en 2021. J'ai été enceinte de ma deuxième, donc très rapidement après le premier. Et il y a eu le deuxième confinement, blablabla, ça m'a fatiguée. J'avais déjà, moi, depuis très longtemps, envie de quitter la France. Je ne m'y plaisais pas spécialement et j'avais envie d'autre chose. Et quand j'ai été enceinte de ma deuxième, que j'ai vu un petit peu le contexte dans lequel nous vivions en France, hein, et que je sentais dans mon fort intérieur que ça y est, tu ne peux pas rester ici, là, ça y est, tu as tes enfants. Ça ne peut pas rester juste une utopie. J'aimerais bien un jour aller... voilà, donc on a commencé à mettre les choses un peu plus... concrètement, on a pris un billet sans retour avec mon mari et mon fils. Et pour vous dire, vraiment, tout est possible parce que moi, j'étais, je le répète souvent, et j'étais enceinte, donc de 6 mois. J'avais mon fils de à peine un an. J'étais en télétravail et j'avais la société BMC. Et c'était un moment où j'avais beaucoup de clients et que mon associé était parti de la société. Donc, c'était vraiment pas le moment d'aller partir dans un autre pays. Voilà, sans... Et c'est pas faire les choses n'importe comment. Hein, c'est que je sais que j'en étais voilà, capable, mm-hmm. qu'il n'y avait pas de soucis sur ça. Et du coup, on s'est dit, on va pas faire le confinement en France. On va aller en Turquie, il n'y a pas de confinement encore. Donc, on y va. On prend, donc, dès que Macron a annoncé son confinement, je sais plus la date, c'était en octobre, le lendemain, on partait. Vraiment, c'est très... Parce que mon mari, il a eu peur que les frontières se ferment, donc on est vraiment parti le lendemain. Donc je te laisse imaginer faire les bagages et tout en très peu de temps. Et on est parti, on a fait plusieurs villes en Turquie, etc. On a été voir, voilà, on a concrétisé les choses, tout simplement. On s'est dit, voilà, on n'a rien à perdre. On a fait le nécessaire pour ensuite trouver notre lieu de vie, donc à Istanbul. Et donc en décembre, janvier, ça s'est précisé parce qu'on a fait un achat. Et on s'est dit, voilà, en été, on n'est plus là. Donc voilà, donc ça c'est en fin 2021 qu'on est parti, donc c'est pendant le deuxième confinement. 2021, on partait finaliser les démarches par rapport à notre appartement ici. Et en été, on partait et moi j'accouchais en fait, j'accouchais en mars 2021. Mm-hmm. Et mon mari voulait partir immédiatement après. J'ai dit non, quand même pas, parce que je sais que ça va être une période fatigante et tout, et que j'ai quand même besoin que la famille voie le bébé. Mais on s'est dit, voilà, en été, on part. Donc, on est parti en juin. Donc, c'était une année vraiment
mouvementée, oui.
Voilà, c'est ça. Il y a la société, il y a un bébé qui arrive et on bouge à l'étranger tout seul. On parle pas le turc parce que nous, on est algériens tous les deux. Et on n'a pas de famille ici, ni d'amis. Hein. Voilà.
Comment ça se fait que vous vous êtes dit, on tente la Turquie, vous connaissiez déjà un petit peu le pays et tout ?
Voilà. Alors, moi, je connaissais. J'ai pas mal voyagé là-bas. Mon mari aussi, mais on a un peu... Enfin, il a été un petit peu moins que moi. Mais voilà, on a été une fois ensemble sur Istanbul. On a kiffé. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un... Enfin, on aime tous les deux beaucoup parce que c'est un entre-deux. En fait, nous, on a vécu toute notre vie en Occident, donc on ne peut pas prétendre à un autre mode de vie. Hein. Clairement, on va en Arabie et tout. Bon, OK, on aime bien, mais enfin, c'est pas non plus qu'on... Enfin, voilà, c'est pas notre mode de vie, en fait. Mm-hmm. Donc, du coup, on avait besoin aussi un petit peu d'un compromis entre notre islam, parce que, voilà, nos convictions, etc., ce qu'on ne voulait plus en France. En fait, on savait ce qu'on ne voulait plus en France et on savait aussi ce que...
Ce qu'on voulait garder, finalement.
Pas vraiment... Oui, c'est pas vraiment ce qu'on voulait garder, mais c'est plutôt, tu vois, on a aussi conscience de ce qu'on est, tu vois. On peut pas
faire
un reset et se dire, bah voilà, aujourd'hui, je deviens une personne parce que, voilà, donc on a conscience de ce qu'on est,
ça s'appelle un certain confort, une certaine habitude, peut-être dans
nos habitudes
et tout ça,
parce que c'est même pas une question de confort, tu vois, parce que le confort, on l'a perdu. On habitait à 2 minutes chacun de tous nos parents. Garder mon fils, j'avais ma belle-sœur à 3 minutes. Enfin, donc on l'a perdu, le confort. On se retrouve dans un pays, on parle pas la langue, il n'y avait pas de confort, tu vois. Ça, c'était pas un... Mais c'est plus, oui, ce mode de vie, en fait, tu vois, c'est de se dire, on est aussi avec des gens qui nous ressemblent, ils ressemblent un peu. Enfin voilà, et du coup, Istanbul, quand on a fait donc notre petit périple en Turquie pendant un bon mois, on a été sur plusieurs villes, on a vu qu'Istanbul était le mieux parce que c'est assez mouvementé. Il y a aussi des quartiers plus, enfin nous on est du côté Asie, donc c'est ce qu'on préférait, hein. c'est beaucoup moins touristique, très authentique. On vit vraiment avec le peuple. On n'est pas dans les buildings où il y a tous les étrangers. Hein. On est vraiment avec le peuple et tout. Et c'est ce qu'on recherchait. Et du coup, bah, on a pas réfléchi trop longtemps. Hein. Des fois, faut pas se poser mille et une questions. Hein. Faut y aller. On s'est fait confiance. On a fait de confiance à Dieu dans cette décision parce qu'on sait pourquoi on quittait. Et donc maintenant, les choses bah, se sont faites. On a fait les choses intelligemment. Hein. On n'est pas parti avec notre sac à dos, avec deux bébés en bas âge. C'est-à-dire, non, on avait bien un appartement qui nous attendait et tout, mais on n'avait pas de confort non plus. Enfin, si, c'est un confort. Bien sûr, c'est un confort d'avoir son appartement. Mais ce que je veux dire, c'est que pas facile. Tu arrives dans un truc, tu connais personne et encore plus, tu n'as pas la langue.
Absolument. Justement, comment ça se passe quand on débarque dans un pays où on n'a pas la capacité de comprendre et de se faire comprendre spécifiquement?
Bah déjà, faut un peu s'oublier hein, quand on se prend trop. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas quelqu'un qui a trop de l'autodérision sur moi, mais quand tu es dans une situation, tu es obligé de te dire allez, je lâche le truc. Parce que déjà, pour apprendre une langue, bah, ça, tout le monde le sait. Hein, quand tu es en immersion, c'est beaucoup mieux. Mais il faut oser. Faut aussi avoir conscience que tu vas te retrouver dans des situations où tu ne seras vraiment pas à l'aise. Tu vas avoir très chaud sous les bras. Hein. Je me suis retrouvée à accepter d'aller boire le café chez mes voisines ou de tout l'immeuble. Mais je ne parle pas leur langue, en fait, elles ne parlent absolument pas la mienne, donc c'est accepter d'être dans un inconfort, mais qui est hyper, qui fait du bien, en fait, parce que c'est autre chose, ça sort d'un confort, mais ça ne veut pas dire que tu es dans un inconfort, c'est que juste tu sors de ta petite zone de confort, en fait.
Oui, enfin, moi, je me sens pas bien un petit instant, là, pendant que tu dis ça.
Ah, oui, parce que t'es introvertie.
Ouais, mais je comprends, non, mais je comprends très bien, ouais.
C'est hyper riche, en fait, parce que dès lors que tu tombes, je pense qu'on attire aussi un petit peu, voilà, ce qu'on dégage, on va attirer des...
Absolument.
Nous, voilà, on est quand même assez... Enfin, on n'est pas venus en mode on est des Français, on vous prend de haut. Et il y en a, hein, franchement, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ici, il y en a, ils vont dans les buildings, ils calculent pas le peuple. Nous, on vit vraiment avec le peuple. En plus, on arrivait en plein été, donc c'était une facilité parce que... y avait tous les enfants qui jouent. C'est un petit peu comme les cités, mais à l'ancienne, pas les cités de France. Mais c'est les cités où il y a beaucoup de respect. Le daron, il va venir, le abbé, il va venir, il va dire un truc au petit, il va fermer sa bouche, il va le faire, elle va le ramener, elle va lui demander des courses, il va y aller. Enfin, c'est vraiment les gens vivent ensemble, enfin, nous, où on est. Et du coup, on a été très rapidement intégrés, aussi du fait qu'on a des enfants en bas âge. Ça, les enfants ici, c'est vraiment voilà. Et puis les gens aussi ont cette interrogation de se dire, ils sont tout seuls, sans famille, on peut pas les laisser, on va être aussi leur famille, quoi, je pense, hein, parce que. Comment ils se comportent, c'est vraiment le comportement que ils sont comme une famille, quoi. Ils sont là, attends, il y a une entraide pas possible. Et du coup, on a fait notre petite place, quoi. Et donc voilà, maintenant mes enfants parlent très bien le turc, donc ils sont un petit peu des petits turcs.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Et j'ai vu en story en plus que tu notais des mots.
Moi,
j'avais un carnet là avec des mots en turc.
Ça, oui, hier j'ai repris mes cours en fait lundi.
D'accord.
Alors c'est vrai que c'est compliqué de prendre des cours. J'aime bien. Moi, là où on apprend le plus, c'est quand on est avec les gens. Mais c'est vrai que pendant l'hiver, on voit moins de gens. Parce que c'est vrai que l'été, on est tous en bas et tout, on se rencontre tous. Mais l'hiver, c'est chacun un petit peu chez soi. Donc, à part les commerces et tout, oui, on se débrouille parce qu'on a besoin de manger et tout.
Mais
c'est vrai que je me suis allée, je reprends un peu mes cours. J'y vais par période, moi. Je ne peux pas faire toute l'année. Mais voilà, donc là, j'ai repris, oui. Mais voilà, il faut se donner aussi un peu de mal. Hein, parce que on peut vite... voilà, moi, comme je ne travaille pas avec la Turquie, j'ai pas de nécessité, enfin en vérité j'ai pas de nécessité à l'apprendre, mais tu peux pas vivre dans un pays et pas parler la langue, c'est hyper frustrant, donc voilà, faut mettre un petit peu de pied aux fesses, quoi, allez. Puis voilà,
franchement c'est génial, moi je suis hyper admirative et ça donne envie, hein, parce que la Turquie, on en parlait un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est pas spécialement la destination à laquelle on pense automatiquement, surtout quand on n'est pas turc d'origine. Donc c'est vraiment cool et franchement ça donne envie. Je pense aussi à une autre entrepreneur qui a eu un coup de cœur pour la Turquie, c'était Nawel de Muslimimo, et elle avait aussi adoré quand elle y avait été, et c'est trop cool de t'entendre parler comme ça de cette épopée, parce que c'est pas rien, quoi.
C'est ça. Après c'est vrai que je l'entends de plus en plus, moi j'ai énormément de gens qui me contactent, j'aimerais bien venir en Turquie et tout et tout. Donc tu vois, il y a beaucoup de gens, et pour te dire, il y a énormément de Français qui sont venus en Turquie, et la Turquie là un petit peu fermée, donc c'est pas pour décourager qui que ce soit, hein. Si t'as ta place ici, si tu dois être ici, tu viendras, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que la Turquie, c'était l'année dernière, elle a réduit les visas, c'est tout ce qui est touristique. Donc, tu sais, les gens qui restaient, en fait, ils ont un visa touristique, mais ils peuvent rester un an et tout. Mm-hmm. Ils ont réduit ça, en fait, mais pas que pour la France, mais il y a eu un gros, à un moment donné, il y a beaucoup de gens de France qui ont dû retourner, en fait, en France parce qu'ils n'ont pas eu le renouvellement de leur papier.
D'accord.
Donc, pour te dire, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de France. Après, voilà, mais de France, il y en a pas mal.
Oh ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Et on ne peut pas parler de la Turquie sans parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant, deux semaines à peu près. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu étais dans la zone des tremblements de terre donc, qui ont eu lieu ou pas? Comment vous avez vécu ça en fait? C'est ça. Ouais. Ouais, on peut rien y faire, mais c'est vrai que c'est hyper impactant et même au niveau des enfants.
Alors, mes enfants, ils sont. Oui, en fait, mes enfants, le truc, c'est qu'ils sont petits. Hein. Ma fille, elle va avoir 2 ans et mon fils, il a 3 ans. Donc, eux, ça va, mais c'est vrai que quand tu t'as. Bah, déjà, on les avait avec nous. Donc, déjà. Et ils sentent, en fait, tu sens quand. Il y avait franchement, les premiers jours, donc après le premier séisme, là, le lundi, les 3 jours après, jusqu'à mercredi, jeudi, il y avait une atmosphère très bizarre. Donc,
C'est
les enfants,
ça
quand
que tu
tu ne les as
m'avais
pas
dit, ouais.
sortis. On les a pas sortis, c'était un peu. Donc, eux, bah, ça reste des enfants. Donc, ils n'ont pas conscience. Mais je sais que l'école, ils ont envoyé des messages pour expliquer aux enfants et tout. Nous, ils sont trop petits. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. On ne leur a rien montré. Ils sont petits. Il y a 3 ans. T'imagines bien que comprendre le. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu as les parents, bah, tu vois, toi, tu es impacté. Bah, bien évidemment, ça impacte tes enfants. Donc voilà. Mais oui, après, je sais qu'en Turquie, ils ont mis par contre en place. Bah, ils ont expliqué aux parents. Ils ont envoyé. Enfin, les écoles, tu vois, ont envoyé des messages aux parents pour expliquer. Enfin, exprimer aux enfants ce qui s'est passé, leur faire comprendre, même des exercices à leur faire, tu sais, genre, tu vois, pour aider les autres enfants, etc. Je sais que les écoles, nous, par exemple, notre crèche, ouvert des places gratuites, en fait, pour les enfants de là-bas, etc., qui auraient besoin de se reloger. Etc. Voilà. Donc, c'était, oui, c'était, franchement, c'est une tragédie, mais bon.
Bah, y a une belle solidarité qui se construit derrière, donc ça, c'était... Ça, c'est le... on va retenir le... pas le positif,
voilà.
Mais...
Ouais, c'est dire... voilà, ce qui en est ressorti.
voilà, ce qui en est ressorti, exactement. Mm. En tout cas, merci pour ce retour-là. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Et donc, on retient que la Turquie, c'est un plus-plus, donc.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Après, bon, il faut faire son expérience. Hein. Ça reste une autre... Ça reste des Turcs qui sont pas... Enfin, tous les caractères ne peuvent pas vivre en Turquie. Ça, je préfère le dire. Hein. C'est quand même... ils ont quand même un caractère assez spécial. Et voilà, nous, après, en tant qu'Algériens, on se ressemble un peu. Donc, ça va. On arrive à... Il faut pas avoir peur d'être dans la confrontation et dans le... Dans le mise en place de pression sur les Turcs, parce que sinon on n'obtient rien.
Ok.
Mais non, okay. Franchement, oui, il fait bon vivre. Franchement, c'est un très beau pays.
Franchement, merci beaucoup. Et merci on va revenir du coup sur le sujet principal du podcast. Mais cette aparté, elle était vraiment très agréable. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on se quitte, nous parler un peu de ton actualité ou en tout cas de ce qui arrive de ton côté?
Oui, alors bon, j'ai pas de lancement, mais c'est vrai que du coup, je vais relancer pour le mois du Ramadan le collectif, etc., le Telegram. Donc ça, c'est un petit point. Et également, bon, le gros truc qui est affilié à BMC. C'est que je lance une grosse formation en hybride, du coup. Donc, il y aura une partie digitale et une partie sur Istanbul, justement, donc en immersion pour des gens qui veulent apprendre le marketing ou même des entrepreneurs qui veulent bien comprendre comment mettre en place les choses et le faire d'une bonne manière, quoi. Et du coup, ce serait plus en septembre. Donc là, on est en train de passer tout ce qui est, tu sais, Calliope, toutes les petites démarches pour pouvoir faciliter le financement. Mais du coup, ça, c'est un gros projet de cette année qui peut en intéresser plus d'un, parce que vraiment, ce serait une formation assez riche où on va mettre en pratique, en fait, sur Istanbul. Donc, ce sera moi qui ferai les séances de formation. Et en fait, c'est sur une semaine, vraiment une immersion, entre guillemets, dans le marketing digital, où tout ce que ces personnes-là auront vu sur les modules en ligne vont pouvoir mettre en pratique, poser leurs questions en live, etc., lors de séminaires sur Istanbul, avec une petite partie culturelle aussi qui peut être sympa.
Ah, donc du présentiel, ça c'est génial.
Voilà, c'est basé de l'hybride, partie formation digitale, donc il y aura en ligne et une partie en présentiel sur Istanbul en plus, donc je pense que c'est top.
Ah ben c'est génial, franchement je vais mettre tout ce qui est en rapport avec ton site, ton compte Insta et quand le moment sera venu, quand ce séminaire arrivera, je mettrai aussi toutes les infos. Sous l'épisode,
ouais,
avec plaisir. Comme ça, les personnes pourront retrouver tout ça et puis qu'elles n'hésitent surtout pas à te contacter sur Insta ou via le site s'il y a une rubrique contact ou quoi pour te poser toutes leurs questions. Pas que sur la Turquie, hein, sur le business aussi.
Exactement.
Je pense, Laura, que tu te feras un plaisir de leur répondre.
Avec grand plaisir, bien sûr. Bah, je suis surtout sur Instagram, c'est surtout là où. Après, j'ai aussi ma newsletter. Où j'invite vraiment toutes les entrepreneuses ou celles qui sont en parcours vers l'entrepreneuriat à la suivre, parce que franchement, ça trouve top. mais je te mettrai le lien, je t'enverrai le lien
tu
aussi.
Tu me donneras tout ça.
Et du coup, vraiment, je suis là. Enfin, moi, si j'ai développé l'Instagram, c'est vraiment pour communiquer plus que me faire voir. Quoi. Ça, c'est pas, je ne suis pas venue chercher, entre guillemets, des clientes sur Instagram. Je recherche à ce qu'on discute et que aussi comprendre les problématiques, tu vois. Ça me permet de faire des offres en fonction, en fait. Donc, c'est... et d'adapter en fait tout ce qu'on propose aux vraies problématiques de ce que les filles vivent quoi dans l'entrepreneuriat.
Super, franchement merci encore mille fois Laura d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé tout ça avec nous avec toute ton énergie, ton peps et ta bonne humeur. Franchement c'était un régal et merci aux filles qui auront suivi cet épisode de nous avoir écouté jusqu'au bout. Et Laura, je te laisse le mot de la fin.
Bah, merci à toi surtout. Vraiment, moi, j'aime beaucoup ton contenu. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à tout suivre et à réécouter tous les épisodes avant. Plein de belles choses. De toute façon, on reste en contact. Et je vous souhaite à toutes une très belle expérience entrepreneuriale. Ne lâchez rien. Vraiment, allez au bout de... J'aime pas dire aller au bout de vos rêves parce que des fois, ce n'est pas un rêve. mais voilà, allez au bout de vos envies. Et voilà, il y aura... Et franchement... faut pas rester dans la peur. Voilà, tout ce que je peux finaliser. Ne restez pas dans la peur et il faut être dans l'action, quoi. Allez-y. Vous avez rien à perdre.
Super, merci beaucoup Laura et à très vite.
Merci à toi, à très vite, passe une bonne journée.
Toi aussi.